Voilà, on va poursuivre notre lecture et notre réflexion sur 1 Corinthiens 12, 13, 14. Et vous avez remarqué que dans notre lecture, on s'approche, j'allais dire dangereusement, ou peut-être heureusement, du chapitre 13. Et il est réputé, n'est-ce pas, ce chapitre de 1 Corinthiens 13. Quelqu'un peut me dire, sans regarder, de quoi il parle ? De l'amour. De l'amour. C'est un magnifique poème, une très belle réflexion sur l'amour. C'est probablement l'un des textes les plus lus lors des cérémonies de mariage. Bon, je dis ça si ça peut aider quelqu'un. Pourtant, vous avez bien remarqué avec moi, n'est-ce pas, que le contexte n'est pas du tout celui du mariage hein, dans l'épître aux Corinthiens. Vous voyez bien le contexte hein, de ce remarquable exposé de Paul. Il n'est pas cité à l'adresse des tourtereaux. L'amour fait partie de l'enseignement de Paul sur les dons. Et on peut remarquer que quand Paul parle ici d'amour, il n'est pas question de sentimentalisme. Alors, avant d'examiner ce poème inégalé sur l'amour, il nous faut considérer le contexte dans lequel Paul le situe. Et je vous propose donc de faire ce matin la lecture de quelques versets qui précèdent, des quelques versets qui précèdent ce poème pour qu'on puisse le mettre dans son contexte. On est donc 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 31. Je vais prendre cette fin de chapitre 12 avec. On est page 237 hein, dans les Bibles rouges. Et je vais lire les versets 31 et les quatre premiers versets du chapitre 13. Et Paul dit, là, dans sa lettre aux Corinthiens, « Aspirez aux dons de la grâce les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter des montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. Pourquoi Paul dit ça? Pourquoi il introduit ce chapitre sur l'amour par ces exemples? Peut-être il faudrait nous intéresser à la vie des Corinthiens, de ce qu'était la vie et la culture à cette époque. À cette époque-là, maintenant ça a changé, n'est-ce pas? Les gens étaient très superstitieux. Ah oui, je vois que, voilà, on est à l'époque de la science, hein, mais on est toujours resté aussi superstitieux. À cette époque-là, on n'arrivait pas à expliquer tout ce qui se passait autour de nous de manière scientifique comme on le fait aujourd'hui. Et à chacun de ces événements, on l'attribuait à un phénomène d'ordre spirituel. Et donc, on s'adressait à ces puissances spirituelles pour avoir des présages, pour pouvoir connaître, préparer, prévenir et même maîtriser l'avenir. Alors, on se tournait vers des personnes qui étaient censées être en relation avec les dieux et qui pouvaient nous dire ce qui allait se passer dans le futur. Mais évidemment, là, on s'adresse, on entre dans le domaine du mystère, n'est-ce pas? Et les dieux s'adressaient de manière mystérieuse, et la personne qui était désignée pour annoncer les oracles des dieux parlait dans une langue inconnue. C'était notamment le cas hein, à l'acropole de la fameuse Piti dont tout le monde entend parler. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on nous présente quand on étudie la philosophie, la culture grecque, hein, grecque ancienne. Et donc, on allait voir cette brave personne, on faisait un don et puis on consultait les dieux. La Piti racontait un truc auquel personne ne comprenait rien. Et il y avait auprès d'elle une personne qui était censée interpréter. Bon, elle interprétait de telle manière que... voilà, c'était à peu près, du genre de ce qu'on trouve aujourd'hui dans l'horoscope, hein. Voilà, du genre, attendez-vous à ce que Noël tombe le 25 décembre. Voilà. Et donc, ces phénomènes de langue inconnues par lesquelles les dieux font connaître leur volonté, cette nécessité de savoir l'avenir par toutes sortes de personnes intermédiaires, hein, les 10 heures de Bonaventure, on regardait dans les entrailles des animaux, enfin dans le ciel, le vol des oiseaux, enfin on essaie de trouver des présages dans tout ce qui se trouvait autour de nous pour essayer de connaître ce qui allait se passer dans les vies. Et il semblerait que l'Église, ben, elle était imprégnée de cette manière de penser et de concevoir, et elle imaginait que Dieu, ben, il se manifestait de cette manière-là. À cette époque-là, commençait à naître aussi une nouvelle pensée philosophique qui disait que, oh, finalement, le corps, il est méprisable. C'est, voilà, l'esprit, c'est quelque chose de supérieur. Et on voyait de plus en plus de gens se tourner vers des philosophies qui vont mener vers l'ascétisme. Hein. Le corps, c'est le siège de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est mal, du péché, des contingences, de ce qui est sale. Et puis l'esprit, lui, il s'élève, il est l'intelligence, la philosophie, tout ce qui est beau, tout ce qui est digne d'honneur et de louange fait partie de ce qui est de l'esprit. Voilà le contexte dans lequel était l'Église à Corinthe. On dit de Paul, hein, le texte biblique nous le rappelle, que quand il a visité Athènes, son esprit était irrité tellement cette présence idolâtre, elle était importante. Et en même temps, il fait cette remarque aux Athéniens en leur disant, vous êtes des gens extrêmement religieux, hein, vous avez un Dieu pour tout, hein, il vous faut vous prémunir contre tout, et si des fois vous en aviez oublié un, hein, vous avez même mis une statue au Dieu inconnu, hein, pour vous mettre personne à dos. Alors c'est vrai, hein, les gens aujourd'hui restent superstitieux, même si on a la science, même si on ne croit en ni Dieu ni maître, les gens restent superstitieux et ont besoin de connaître et de maîtriser. Dans ce contexte, Paul leur dit « recherchez, aspirez aux dons les meilleurs ». Alors est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Est-ce qu'il les encourage à aspirer, à rechercher les dons les meilleurs? Ou est-ce qu'il est en train de leur dire « bon, vous êtes en train de... chacun est en train de chercher à être au-dessus en cherchant ce qu'il y a de meilleur, hein, en cherchant les honneurs ». En fait, c'est difficile de trancher. Est-ce que c'est un encouragement qui leur fait rechercher les dons les meilleurs? Ou est-ce que c'est un reproche? Vous êtes sans cesse en train de rechercher à être meilleur, hein, sous-entendu, meilleur que les autres. Parce qu'évidemment, dans la culture grecque, celui qui pouvait faire des prophéties ou qui maîtrisait la langue des divinités, ben c'est une personne qui avait de l'honneur dans la société. Rechercher les dons les meilleurs, est-ce que c'est un impératif ou est-ce que c'est un indicatif? Vous recherchez les dons les meilleurs et c'est bien, ou est-ce que vous devez rechercher les dons les meilleurs? Alors, la grammaire ne nous permet pas de trancher, en tout cas, les commentateurs sont divisés. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que Paul associe toujours l'encouragement à rechercher les dons les meilleurs d'un « mais ». Recherchez les dons les meilleurs, mais je vais vous montrer une voie par excellence, comme c'est le cas ici. Recherchez les dons les meilleurs, mais surtout celui de prophétie, 1 Corinthiens 14. Recherchez les dons les meilleurs, mais que ce soit pour l'édification de l'Église, 1 Corinthiens 14, 12. Recherchez les dons les meilleurs, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre, 1 Corinthiens 14, 39, 40. Alors on remarque que Paul n'a pas encore cité ses dons meilleurs. Dans ces chapitres 12 et 13 de 1 Corinthiens sont l'enseignement de base avant de traiter des questions ou peut-être des problèmes qui sont particuliers à l'église de Corinthe. Paul pose la base et il va en tirer les réponses, les solutions qui sont utiles pour l'église. Avant de les aborder, il souhaite encore aborder quelques précisions importantes. Et l'une de ces précisions est tellement importante, elle est d'une telle taille qu'elle va occuper tout un chapitre, tant son importance est capitale et sa place centrale. Dans l'exercice des dons, la motivation la plus importante, c'est l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour l'Église, l'amour pour les frères et sœurs, l'amour pour celles et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est cela, le chemin souverainement supérieur et excellent. Quel est son principe? Le texte ne dit pas que l'amour c'est tout et que les dons ne sont rien. Alors certains prétendent que l'amour rend bête. J'ai déjà entendu ça maintes fois. L'amour rend bête. Alors Paul ici ne nous encourage pas à devenir fleur bleue, à plonger dans le romantisme, le sentimentalisme, à devenir de doux rêveurs prêts à s'enflammer dans une naïveté béate. Mais l'amour n'est pas non plus qu'une simple résolution intellectuelle, une résolution à chercher le bien d'autrui comme s'il échappait au domaine des sentiments ou des émotions. Il ne suffit pas de décider d'agir pour le bien de quelqu'un pour prétendre l'aimer. C'est une vue très réductionniste de l'amour vrai. D'ailleurs, Paul ici distingue nettement l'amour de l'altruisme. L'altruisme, c'est celui qui est prêt à donner, sans compter. Il le distingue aussi nettement de l'abnégation. L'abnégation, c'est cette capacité à renoncer à tout. Comme si l'amour était juste le fruit d'une autodiscipline purement mécanique. Alors ici, peut-être, ce serait le lieu pour donner une définition de l'amour vrai. Mais Paul va développer ce qu'il entend par amour dans les versets suivants. Et nous allons aborder cela dans le tout début de l'année qui va s'ouvrir devant nous. Mais ce qu'on peut déjà remarquer, c'est que l'amour dont il est question ici, et dans la Bible en général tout entière, souligne autant le côté affectif, le penchant, avoir du penchant pour quelque chose, des sentiments, de l'émotion, que le côté juridique, la fidélité, l'engagement, la volonté. Alors quelle est l'intention de Paul quand il fait ses déclarations? Alors, il vise clairement à abaisser les prétentions des orgueilleux, de celles et de ceux qui éprouvent le besoin de se vanter de leurs dons, singuliers ou pluriels, qui se mettent en avant et qui, à l'occasion, écrasent les autres frères et sœurs. Je connais une église dynamique, avec un bel échantillon de personnes douées pour la musique et pour ce qu'on appelle communément la louange, le chant, la direction dans la louange. Et de vivre le culte dans cette église, de vivre ces moments, c'est bienfaisant et c'est édifiant. Tellement bienfaisant et tellement édifiant que cette église a grandi, a fini par s'engager dans la construction d'une nouvelle salle de culte. Elle est passée de son petit temple historique à une magnifique et vaste salle pouvant accueillir jusqu'à 650 personnes. Alléluia. Mais vous savez quoi? Les peintures étaient à peine sèches, il fallait encore pas trop s'appuyer contre les murs, que des voix ont commencé à se faire entendre pour prétendre que dans une telle salle, il n'est pas opportun de laisser les musiciens et chanteurs amateurs animer le culte. Place aux professionnels. Les nouvelles circonstances l'exigent. Vous imaginez l'émoi que ça a suscité. Et vous savez, c'est tellement vite fait. C'est tellement vite fait de se monter la tête. Le détail. On voit ces trois exemples qui sont donnés ici par Paul. Et il prend le contre-pied de l'église de Corinthe. Corinthe veut toujours aller vers ce qui est le meilleur, hein, le plus en vue, le plus tape à l'œil, le plus... Et Paul, il commence dans son... En tout cas, c'est comme ça qu'il le voit dans son esprit. Il va du moins au plus important. Et il prend ici les Corinthiens à contre-pied. Et on ressent, à la lecture de ces versets, la surenchère qui devait avoir cours entre les frères et sœurs dans cette église de Corinthe, entre celles et ceux qui faisaient mieux et celles et ceux qui faisaient plus. Alors il commence par les langues. Et moi je voudrais vous dire que parler en langue, c'est super cool. C'est super cool de pouvoir parler avec toutes les personnes que tu rencontres. Tu n'as plus besoin d'avoir peur, hein, d'aller à côté chez nos amis belges parler flamand. Tu n'as plus peur de traverser la Manche pour parler anglais. Tu n'as plus peur d'aller en Espagne ni nulle part. Tu peux prendre un billet d'avion pour n'importe où. Tu descends de l'avion, tu parles avec tout le monde comme ça. Paf. Ça n'a pas souvent été un frein pour vous de voyager, de dire bah, là-bas, je ne comprends pas ce qu'ils disent. Alors ce qui est super cool, c'est qu'avec ces dons des langues, comme c'est exposé par Paul ici, tu pourrais même discuter avec les anges. Enfin, si toutefois tu en croises un, n'est-ce pas? Il connaît toutes les langues de tous les hommes et de tous les anges. Alors je ne sais pas si les anges parlent une ou plusieurs langues, on saura dans l'éternité. Avec ce don, imaginez que j'ai ce don. Je pourrais chaque dimanche vous parlez dans une autre langue. Ça briserait la monotonie de la prédication, n'est-ce pas? Bon, vous ne comprendriez pas tous les dimanches, mais qu'importe, hein, ça montrerait combien je suis spirituel. Alors, je voudrais faire une expérience avec vous ce matin. Paul propose que de se conduire de cette manière-là, ça produit cet effet-là. Quelqu'un a trouvé ça agréable? Ah bon, vous seriez incurable. Hein? C'est beaucoup de bruit pour rien. Paul dit, mais faire ça, c'est beaucoup de bruit pour rien. Heureusement, il y en a qui se servent de ça beaucoup mieux que moi. Hein? Parce que quand on s'en sert bien, comme de la trompette qui retentit, hein? Il venait pas là. Lui, il sait manier la trompette, hein? De manière agréable. Voilà. Utiliser ce don-là de cette manière-là, c'est juste faire un raffut épouvantable. On a envie de se boucher. J'ai vu personne se boucher les oreilles, bien que plusieurs se sont dit « Aïe, 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 qu'est-ce qu'il va nous faire ?» Oui, oui. Paul parle aussi de la connaissance et de la prophétie. Il semble ici reporter, regrouper sur une seule personne les dons de prophétie, de sagesse, de connaissance, de discernement, de foi et même peut-être de miracle pour la rendre capable de sonder, de comprendre tous les mystères et même de déplacer les montagnes. Alors vous savez, on peut tout dire, tout savoir, tout pouvoir, dit Paul ici, et n'être rien. On sait. Combien c'est agréable d'avoir affaire à une personne qui sait tout sur tout et surtout qui vous fait bien sentir. Quand vous êtes auprès d'une personne comme celle-là, vous avez envie de crier « Au secours ! Au secours ! Sauf qui peut. Fuyez, pauvre fou !» Générosité, altruisme, abnégation, martyr. Paul fait référence au don de libéralité, d'aide, d'hospitalité, de partage des biens, de miséricorde, de service, et peut-être même de la capacité à endurer la souffrance. Et il dit ici, ils sont inutiles, ils sont nuls sans amour. Jésus dit qu'un simple verre d'eau donné avec amour a un résultat beaucoup plus grand. Si tu donnes un simple verre d'eau à l'un de ses plus petits, des enfants de Jésus, avec amour, ça a beaucoup plus de valeur que si tu es capable de tout donner, même de te sacrifier hein, à toi, sans aucun amour. Alors je voudrais conclure par quelques citations que j'ai glanées ça et là dans les commentaires. L'amour, c'est pas un don spirituel, mais il les contrôle et il leur donne de la valeur. L'amour ne remplace pas les dons, mais le manque d'amour les rend inutiles et sans valeur. Aspirez aux dons les meilleurs, mais pas pour prouver que vous êtes les meilleurs, mais parce que vous aimez les autres. Et sous-entendu, vous voulez leur donner le meilleur. Voilà la description de ce chemin souverainement excellent. Voilà la règle souveraine qui doit nous guider dans notre jugement. Alors, sans l'amour, nous manquerons inévitablement le but, quoi que nous fassions. Mais animés par l'amour vrai, nous ne manquerons pas d'être empressés, pertinents et efficaces dans notre service pour Dieu et en faveur de l'Église, en faveur de notre prochain. Que le Seigneur nous aide à être habités par cet amour dont nous allons voir la description dans les prochaines prédications. Rendez-vous début 2020.